Alors je reprends la lecture suivie, le commentaire suivi de la première lettre de Jean, et j'en aborde la deuxième partie. Je reprends le chapitre 1 aussi, et j'aborde la deuxième partie du chapitre 1. Verset 1. Nous vous annonçons, commence le texte, le message de celui qui est la vie. Verset 5. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Alors cette affirmation du verset 5 a peut-être un côté, plusieurs côtés, un peu déroutant. D'abord parce que Jean annonce qu'il veut nous faire part du message de celui qui est la vie, c'est-à-dire de Jésus-Christ, mais c'est la teneur de ce message qui peut surprendre. Dieu est lumière. Ah, peut-être qu'on se serait attendu à voir autre chose mis en valeur ici. Par exemple, Dieu est amour. Ce que Jean d'ailleurs va dire un peu plus loin au chapitre 4, et qu'on a tellement besoin d'entendre aujourd'hui, et qui d'ailleurs n'est pas si facile à entendre ou à faire entendre aujourd'hui. Puisque même si c'est attirant, etc., c'est pas quelque chose qui est si simple à admettre, à croire aujourd'hui. L'amour de Dieu, un bouquin théologien, peu importe, le titre c'est la doctrine difficile de l'amour de Dieu, parce qu'il est sensible à ce contexte contemporain. Alors vous me direz, mais ça dépend sans doute à qui on s'adresse. Je pense à cette personne qui avait vécu dans un milieu un peu secte, on va dire, secte d'origine chrétienne, mais bon, voilà. Mais qui avait été bouleversé de ce que quelqu'un lui dise, Dieu est amour. Parce que là où elle était, dans le contexte communautaire dans lequel elle vivait, on entendait plutôt Dieu est rigueur, Dieu est justice. Et on allait même, alors à cette époque-là, on allait même lui préciser comment Dieu voulait accompagner tous les gestes de la vie. Donc par exemple, on lui a expliqué comment il fallait que Dieu voulait qu'elle fasse le ménage chez elle. N'oubliez pas de passer le chiffon au-dessus de la porte, par exemple. C'est pas inutile pour moi, parce que les rares fois où je fais le ménage, voilà, mais j'irai en tout cas pas passer au-dessus de la porte, là où il y a de la poussière. Vous savez. Donc, Dieu est amour, et bien ça l'a bouleversé. Mais bon, pour beaucoup aujourd'hui, devant l'état du monde, ou l'image qu'on véhicule communément de l'état du monde, au moins, il y a de la difficulté de croire à l'amour de Dieu. Que Dieu soit amour. Dieu est lumière. On aurait pu aussi s'attendre à Jean 3,16, surtout côté évangélique, on met bien ce verset en valeur, c'est toujours l'idée de l'amour de Dieu. Mais voilà, le message important, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. N'est-ce pas là ce que nous considérons en milieu évangélique comme souvent la cristallisation du message de l'Évangile, le cœur du message de l'Évangile. Et donc, Dieu est lumière. Tiens donc. Et puis, enfin, c'est un faux étonnement d'une certaine partie, mais pourquoi mettre ça en valeur? Et je dirais, tiens donc, d'autant plus fort qu'à y réfléchir quelques instants, il se trouve que, alors je vais être trop littéraliste, il se trouve que je ne vois pas vraiment ça, en fait, tel quel, dans les évangiles, dans les récits de la vie de Jésus, que sont les quatre évangiles bibliques. Je le dis autrement, je ne vois pas de discours de Jésus, mais peut-être j'ai pas vu, hein, vous me direz, hein, mais je ne vois pas de discours de Jésus où il dit, attendez, hop, j'ai quelque chose d'important à vous dire, Dieu est lumière, et il n'y a pas de ténèbres en lui. Je ne vois pas dans l'évangile, dans les évangiles qui nous reste, Jésus dire « Je vous annonce que Dieu est lumière ». Alors vous me direz peut-être, mais pas de panique, on se calme, on respire, zen, pardon. On respire profondément, deux, trois fois. Dire que Dieu est lumière, oui, les mots à mots, c'est pas tel quel dans le texte. Et en même temps, c'est pas non plus décalé quand même par rapport au texte. Et puis, ajouterez-vous peut-être, nous n'avons certainement pas dans le Nouveau Testament, tout ce que Jésus a pu dire et faire. Jean lui-même, à la fin de l'Évangile, dit « Mais s'il fallait raconter tout ce que Jésus a dit et fait, ça prendrait de la place. » Donc on n'a pas tout ce que Jésus a dit et fait, donc pas de panique, on se calme. Sauf que déjà, et j'ouvre une parenthèse, ne me dites pas que je panique, je ne panique pas. Je ferme la parenthèse. Mais surtout, ce n'est pas ça qui me pose question. C'est plutôt que je ne vois pas bien Jésus le juif, devant les personnes à qui il s'adressait, ses auditeurs juifs, je ne vois pas très bien Jésus leur dire « Dieu est lumière ». Comme ça, tel quel. Alors évidemment, vivant 2000 ans après, comme la plupart d'entre nous, je connais très mal le contexte du Nouveau Testament. J'ai du mal à imaginer ce qui se dit à l'époque. Et je suis peut-être tout à fait à côté de la plaque. Mais à partir de ce que j'ai l'impression de plus ou moins connaître du judaïsme de l'époque, j'ai l'impression que dire « Dieu est lumière », comme ça, ça pourrait presque être une sorte de banalité. De lieu commun, un peu comme si nous nous mettions à dire ben, « Ce matin, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, les oiseaux volent. Bon. » Oui, je sais, il y en a quelques-uns qui ne volent pas, bon, voilà. Mais bon, les oiseaux volent en général. Autrement dit, la question que je me pose, mais c'est à quoi ça aurait servi à Jésus de dire, de mettre en avant que Dieu est lumière ? Et je suis dans notre texte, pour revenir au texte, à quoi ça sert à Jean ? Dans son contexte à lui, un peu plus tard que Jésus, d'afficher d'emblée Dieu et lumière. Troisième interrogation, c'est que quand j'entends, alors c'est peut-être très personnel, et je ne vous demande pas d'être d'accord, vous pourrez dire, mais le pasteur, il est, voilà, pas de problème. C'est que quand j'entends personnellement dire Dieu et lumière, personnellement, je me dis, en fait, mais ça veut dire quoi ? Pour moi, il y a un gros point d'interrogation là. Et ce qui décuple un peu ma perplexité, ce qui augmente ma perplexité, c'est que juste après ça, c'est pas tellement l'affirmation de Jean, mais c'est la façon dont je la vois parfois retentir en nous, à savoir par des manifestations d'émotion, avec des soupirs. Ah. Dieu est lumière. Et on retient son souffle. La lumière, c'est beau, c'est chaud. Un peu comme si chacun pouvait légitimement, tranquillement, dans les propos de Jean, mettre tout ce dont il avait envie de rêver. Et là, il y a tout un tas d'images qui peuvent nous traverser. On va s'y une projeter. Mais ça peut être celle-ci, ça peut être celle de rayons de soleil qui émanerait d'un ailleurs, ou bien qui émanerait d'un au-dedans, ou d'un au-delà, des rayons de soleil qui viendraient nous couvrir, nous nimber, ou bien celle d'un espèce de décor céleste, irradié d'une présence ineffable, ou je ne sais pas trop quoi de ce style. Et nous imaginons Dieu plus ou moins quelque part là au milieu. Style un peu toutes ces photos, tous ces posters, tous ces fonds d'écran qui chargent et qui peut-être parfois surchargent les sites chrétiens, notamment pour la louange. avec cette main levée dans laquelle les rayons du soleil viennent nous baigner l'adorateur. L'adorateur qui est là, qui est seul en présence de Dieu, ou bien qui est en groupe, en église, dans la plénitude de la présence de Dieu. Enfin bref, le genre d'image un peu merveilleuse. Et si j'ose, désolé, un peu passe-partout, sur lequel on met facilement l'étiquette de spirituel, de spirituellement correct aujourd'hui. Je continue à prendre le risque de le confesser, et pour employer un euphémisme, ce qui ne suscite pas chez moi, en tout cas personnellement, l'enthousiasme qui serait attendu. Peu importe ce que je raconte à propos de moi, j'essaie de vous faire sentir quelque chose et de faire sentir ce que le texte lui nous dit. Hop. Dieu est lumière et nous soupirons. Et je remets une couche à mon propos, désolé, pardon, mais je suis ennuyé quand même. Ça m'ennuie d'autant plus que cette métaphore de la lumière, elle me semble employée à tout bout de champ, un peu partout, et justement par des personnes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Exemple qui n'a rien de religieux, mais c'est précisément au siècle des Lumières qu'on a chassé Dieu de la scène. La lumière était là, maintenant Dieu, dehors. Merci. Et plus préoccupant, un regard contemporain sur le religieux d'aujourd'hui permet de se rendre compte que la plupart, en fait, des mouvements religieux, des spiritualités, pour reprendre le mot spirituel, donc des spiritualités entre guillemets, exploitent ce thème jusqu'à l'utiliser pour se désigner eux-mêmes. Alors ça date peut-être un petit peu, mais voilà, la mission de la lumière divine du gourou Maharaji, peut dater, c'était l'église, la lumière divine, avec les sous-titres, la révolution spirituelle, la danse du ciel, bon, ok. Maïkari, organisation religieuse de la vraie lumière, Chine ou Japon, c'est marqué dessus, mais j'arrive pas à lire là, mais bon, peu importe. Et à ça, on pourrait rajouter plein de choses, la lumière des Bouddhas, la lumière des Rose-Croix, et je cite, c'est un article de revue, « Quand un individu dit qu'il a reçu la lumière, lis-je dans une revue, donc quand un individu dit qu'il a reçu la lumière, cela signifie qu'il a été reçu dans la franc-maçonnerie, qu'il a été initié. » Et article d'ailleurs où l'auteur n'hésite pas à citer l'évangile de Jean. On est en train de parler de Jean, donc il cite des textes d'évangile et il se reconnaît dans ces textes d'évangile. Et puis on peut faire, il y a aussi des propositions de cours, de coaching, magie de lumière divine, développer vos connexions avec les mondes subtils, vos guides, les êtres de lumière et améliorer votre vie. Révéler ton plein potentiel et libérer la lumière qui est en toi avec un coaching individu long terme, etc. Alors c'est pour ça que je pousse un peu le bouchon, mais on parle de quoi ici? Et même en milieu évangélique, il se trouve qu'on l'a chanté en première partie, mais je ne tape pas trop sur le chant. Même devant le chant « Brille au Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brille au Jésus que ta lumière soit », je me pose un peu les mêmes questions. Mais lui, ça va, il est plus, on voit à peu près de quoi il veut parler. Et heureusement, si je puis dire, le compositeur et le traducteur français ne prétend pas commenter l'évangile de Jean. Il se sert des images que Jean emploie aussi, mais heureusement, il ne prétend pas les commenter. Mais là, c'est cette image de lumière comme quelque chose qui transforme le pays, couvre ce pays, notamment. Le réveil, quoi. Alors, revenons au texte. Dieu est lumière, et on parle de quoi? De quelle lumière? De quel Dieu? Qu'est-ce que nous imaginons quand nous lisons ce texte? Qu'est-ce que nous projetons sur cette image de la lumière? Avec quelle lumière regardons-nous la lumière du texte? Pourquoi mettre ça en valeur? Et au-delà des usages contemporains étranges, mais ce n'est pas propre au monde contemporain, on trouvait ça aussi à l'époque biblique, hein, au-delà de nos rêves, au-delà de nos fantasmes, qu'est-ce que Jean, lui, veut dire? Eh bien, pour ça, comme pour tout le reste, c'est très très simple. Quand on est en quête du sens d'un mot, ou du sens d'une parole, un peu, même une phrase, eh bien la chose à faire, c'est de la lire, d'essayer de la lire en contexte. C'est tout simple. Enfin, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et je reprends la lecture. Verset 1, nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, alors nous sommes des menteurs. Et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion. Et la vérité n'habite pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, eh bien, il est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Je reformule ce que Jean fait entendre à ses lecteurs et ce qu'il nous fait entendre. C'est que quand il dit que Dieu est lumière, eh bien, il ne nous propose pas une espèce de planche de surf prête à porter ou bien nos rêves contemplatifs ou bien nos rêves de réveil sur le pays. Là encore, le pays, c'est, j'ai l'impression qu'on dit ça depuis quelques années, mais dans ma tendre jeunesse chrétienne, ce n'était pas une expression symbolique qui a autant de poids qu'aujourd'hui. Donc, il ne parle pas de nos rêves contemplatifs, de nos rêves de réveil sur le pays, de nos rêves du trône de Dieu ou du monde spirituel, entre guillemets, ou je ne sais quoi de cet ordre. Non, il nous renvoie à des choses qui sont toutes bêtes aussi, si je peux dire, à des choses qui sont extrêmement concrètes, qui sont observables, et qui se voient très bien dans notre façon d'être, ici, maintenant. Il nous rapporte à notre façon de vivre, comme chrétiens. En termes contemporains, à l'éthique. Et ici, alors il faudrait lire davantage du texte, mais à la conformité ou au décalage entre notre façon de vivre, justement, et le caractère de Dieu auquel nous faisons référence. À la conformité ou au décalage entre notre façon de nous décrire, de parler de nous. On relève dans le texte, si nous prétendons, conformité au décalage entre ces prétentions et notre façon de vivre, conformité au décalage entre nos prétentions et le Dieu dont nous nous prétendons. Comme aujourd'hui, j'entends des affirmations qui disent ou qui veulent dire Moi, je suis éclairé, moi. Moi, je suis spirituel, moi. Moi, j'ai le Saint-Esprit, moi. Moi, j'ai des miracles à raconter, moi. Presque comme disait l'enfant. Moi, je sais, moi. Je sais. Toute référence à Jean Gabin. Voilà. Moi, je sais. Peu importe, si vous ne captez pas, c'est pas grave. Peu importe. Moi, je suis illuminé, moi. Moi, je suis en prise directe avec Dieu. C'est peut-être pas dit comme ça, mais parfois c'est dit comme ça. Et ces affirmations, souvent, elles veulent dire soit en creux, soit parce qu'on vous le dit directement. Et toi, tu l'es moins que moi. Et Jean dit, parce que c'est à ces personnes-là, à des personnes comme ça qu'il a affaire, lui aussi déjà, Jean dit, j'entends ta prétention. Mais comment est-ce que tu te comportes? Et comment est-ce que Dieu est? Ce Dieu dont tu te prétends. C'est précisément la situation que Jean rencontre, même si j'ai essayé de le dire avec des formules plus contemporaines. Mais cette confrontation avec cette exposition à cette menace de personnes qui se disaient, qui se pensaient spirituelles, qui se prétendaient spirituelles, qui se voyaient elles-mêmes comme spirituelles avant de le dire aux autres, on se le dit déjà à soi-même, mais qui le disaient aux autres, qui étaient reconnues comme spirituelles. Sauf que Dieu, ben il est ailleurs, pour le coup. Quand on connaît Dieu comme Jean le connaît, on dit non, mais ça ne colle pas. Sauf que leur comportement se trouvait en décalage avec les affirmations qu'ils faisaient. Les affirmations où ils pouvaient même justifier leur comportement au nom de l'onction de Dieu. Un peu comme en rendre compte. Alors je vais prendre un exemple facile, mais il est vrai en même temps. Les témoignages récents, alors on est côté catholique, hein, dans la question des abus qui traversent la communauté catholique actuellement et qui a fait la une des actualités au moins un certain temps. Sur la diapo, sauf erreur de ma part, on retrouve des homonymes de l'apôtre Jean. Jean Vanier, sauf erreur de ma part, les frères Philippe, fondateur de la communauté de Saint-Jean. Et peu importe, voilà, c'est des exemples comme d'autres. Mais des spirituels qui proposent la prière, qui proposent l'intimité avec Dieu. Allez, nous allons prier ensemble. Et puis laisse-toi toucher. Laisse-moi t'enlever ta robe. Avec moi, tu es dans de bonnes mains. Je vais te faire connaître la lumière. Et toi et moi, nous partageons des choses qu'on ne peut pas dire aux autres. Garde ça pour toi. Il y a une proximité avec Dieu, là il y a un cercle vraiment d'intime. Et là, qui passe à l'extérieur. Et au premier siècle, comme aujourd'hui, au bout du compte, passé la séduction, passé le moment en question, on se retrouve finalement en prise avec une espèce de réalité que personnellement j'ai envie de qualifier de spirituel, même si là c'est du zéro spirituel, une réalité très, très terre-à-terre, très prosaïque, et où le spirituel est engagé, c'est que derrière les prétentions, derrière l'image qu'on a de soi, mais c'est simplement une espèce, ça peut être, enfin c'est pas simplement, c'est aussi une fierté à se voir admirer, à se vouloir admirer, à se vouloir désirer. Après les beaux discours de lumière de Dieu et tout le reste, la religieuse séduite qui remet sa robe salie, ou bien ce sont des personnes dont tout d'un coup le compte en banque est vide. Enfin bref, le sexe, l'argent, le pouvoir, quoi, les trucs ordinaires. Des consentements ou des consciences qui sont forcés au nom de Jésus. Et je reviens sur l'exemple donné, je le prends par commodité parce qu'il a, il circule, mais que personne ne se dise que ça concerne les méchants catholiques. Ça se passe aussi dans des communautés évangéliques. Bah forcément, Dieu merci. Et ça ne se limite pas non plus aux responsables des communautés, même si quand on est responsable, on risque d'être admiré, on risque de vouloir l'admiration. Et voilà, ça nous habite. Mais ces vulnérabilités, ces désirs, ils nous traversent tous, je crois, au fond. Et on les gère plus ou moins bien. Parfois, on ne se pose même pas la question, parce que la question ne se pose pas. Mais quand on est C'est facile de ne pas penser au sexe quand on est marié, quand on a une vie sexuelle heureuse, ou je ne sais pas trop quoi. Mais quand on est tout seul, quand on est, voilà, quand on est devant Internet, il suffit de cliquer sur un lien pour se trouver en prise directe. C'est facile. Et je crains de dire que ce sont souvent ceux qui s'affichent les plus spirituels, entre guillemets. Oh, mais qu'est-ce qu'il parle bien de Dieu ? Qu'est-ce qu'il connaît la Bible par cœur ? Oh, elle a l'onction. Ce sont souvent ceux qui s'affichent les plus spirituels, qui rentrent le plus dans ces fragilités et ces comportements décalés. Je dis souvent, j'exagère peut-être, j'en sais, comment voulez-vous que je sache, de toute façon, je vais vous donner proportion. Mais en tout cas, et pour en revenir à la première de Jean, même si je ne l'ai pas quitté, c'est parce que c'est bien parce que Jean pense à des choses comme celle-ci qu'il écrit. Dieu est lumière. Et ça a bel et bien du sens, et ça a bel et bien ce sens-là. Parce que c'est face à des personnes comme cela que Jean s'exprime. Et pour le coup, et je reviens, je boucle maintenant, je reviens à ce que je disais plus haut, on peut comprendre alors pourquoi Jean met ça en valeur. Entre ton dire et ton faire, entre ton dire sur toi et ton dire sur Dieu, mais ça dissonne, et ça dissonne grave. Et pour le coup, ça renvoie assez directement, ça renvoie bel et bien à des propos que Jésus a prononcés. Je prends juste une parole prononcée par Jésus, parmi d'autres. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur !» Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarerai alors « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Et je ne vais rien dire de plus maintenant. Je vais essayer de vous faire entendre d'une autre façon. Et donc, je vais me permettre de vous faire écouter un chant. Parce que, en fait, il me semble dire des choses mieux que je ne saurais les dire moi-même. Et puis, j'ai déjà tout dit, d'une certaine façon. Alors, il y a une mauvaise nouvelle. Ça, c'était la bonne nouvelle, mais il y a aussi la mauvaise. C'est que le chant est en anglais. Oui, yes. Mais vous pourrez lire la traduction en simultané. Voilà, j'espère que ça ne sera pas trop vite. Je dis juste, pour que vous rentriez directement dans le chant, que le chanteur fait parler Jésus. Donc, imaginez que c'est Jésus qui parle. Bon. Et puis, pour les quatre premières phrases qui nous disent « Mais pourquoi il parle de ça, peut-être ?» il s'exprime en contexte nord-américain. Donc, voilà, il y a des bus qui vont ramasser les gens pour venir à l'église. Mais passé la première strophe, on se retrouve, je pense, plus facilement. Voilà, et puis c'est aussi un chant que j'aime bien, qui m'émeut profondément. Je ne sais pas pourquoi, il y a des chants comme ça, alors que bon.
I don't care how many buses you own or the size of your sanctuary. It doesn't matter how steep your steeple is if it's sitting on a cemetery. I don't care if you pave your parking lot or put pads upon your pews. What good is a picture-perfect stage if you're missing all the cues? I don't care if your pastor's super-powered and your program's always new. What you need is love and truth, and men are gonna come to you. It doesn't matter that you know the Bible if it's all just in your head. The thing I need to ask you, have you done the things I said? Do you love your wife? For her and for your children, are you laying down your life? What about the others? Are you living as a servant to your sisters and your brothers? Do you make the poor man beg you for a bowl? Do the widow and the orphan cry alone? I don't care if you pray for miracles. I don't care if you speak with tongues. I don't care if you've said you love me in every song you've sung. It doesn't matter that your sacrifice of praise is loud enough to raise the dead. The thing I need to ask you is, have you done the things I said? Do you love your wife? For her and for your children, are you laying down your life? What about the others? Are you living as a servant to your sisters and your brothers? Do you make the poor man beg you for a bone? Do the widow and the orphan cry alone? Lord, when were you a prisoner that we did not come to you? When was it that we saw you sick that we didn't follow through? Every time you turned your head and pretended not to see, when you did it not to the least of these, you did it not to me. Do you love your wife? With all you've got inside you, are you laying down your life? What about the others? Are you living a servant to your sisters and your brothers? Do you make the poor man